BW. Vue d'Allemagne.
Un réseau européen pour transporter l'électricité verte, en voilà une bonne idée pour atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. Mais ce n'est pas gagné, comme nous allons le voir dans un instant. Pas gagné non plus l'ouverture des cannabis clubs en Allemagne, 3 mois après la légalisation de cette drogue. Ils sont censés ouvrir au 1er juillet, du moins s'ils ont réussi d'ici là à surmonter toutes les barrières administratives. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne à Berlin. Au micro, c'est Anne Letouzé, willkommen et bienvenue. Encore un trou à combler dans le budget de l'État allemand. Les chiffres sont tombés ce week-end. Près de 9 milliards d'euros manquent pour financer le développement des énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire. Pour encourager la transition énergétique, l'État allemand garantit en effet depuis l'année 2000 un prix plus élevé aux fournisseurs d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable. Dans le passé, cette compensation était financée par une taxe à la consommation, mais le gouvernement a décidé de prendre les frais en charge. Sauf que depuis, le cours de l'électricité a fortement baissé à la bourse et les prévisions budgétaires ont été largement dépassées, presque le double de la somme prévue initialement. Cet exemple de l'Allemagne montre la complexité de la transition énergétique pour les pays de l'Union européenne qui se sont fixés un objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. Pour que tout le continent puisse profiter de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, il faut aussi mettre en place un réseau électrique européen capable de transporter cette électricité. Selon Kadri Simpson, commissaire européenne chargée de l'énergie depuis 2019, l'Europe a déjà fait la moitié du chemin.
L'infrastructure électrique européenne est déjà très bien développée. Nous prévoyons d'électrifier différents secteurs, ce qui signifie que notre consommation d'énergie va doubler. Et bien sûr, cela veut dire que nous devons aussi renforcer notre réseau électrique. Nous devons le moderniser pour permettre l'installation de davantage d'énergies renouvelables.
Les pays européens ont des atouts différents en matière de production d'électricité verte. Pour faire simple, dans le nord et au bord de la mer, il y a le vent et les éoliennes, et dans le sud, c'est le soleil et l'énergie solaire. Une complémentarité qui n'est pas seulement géographique, selon Harald Bratke, directeur du Centre de compétences pour les technologies et les systèmes énergétiques à l'Institut Fraunhofer de Karlsruhe.
Le photovoltaïque et l'éolien se complètent bien parce que l'éolien produit de l'électricité principalement en hiver et le photovoltaïque surtout en été. Et nous avons aussi des capacités de stockage en Scandinavie et dans les pays alpins que sont l'Autriche, l'Italie et la Suisse. Quand la demande en électricité est plus élevée que ce que nous pouvons produire, on peut recourir à cette électricité.
Dans les régions montagneuses, des centrales de pompage-turbinage peuvent réguler les besoins d'électricité. S'il y en a trop, on peut l'utiliser pour pomper de l'eau dans un barrage. Et s'il en manque, l'eau évacuée fait tourner les turbines qui fonctionnent comme d'énormes batteries. Selon Harald Bratke, plus les pays européens seront interconnectés et plus l'approvisionnement en électricité verte sera efficace.
Les avantages sont que l'électricité est moins chère parce qu'elle est achetée directement là où elle est produite à faible coût. Il n'est pas nécessaire d'allumer des centrales de réserve coûteuses qui ne tournent que quelques centaines d'heures par an pour produire de l'électricité. Au lieu de cela, on peut obtenir un équilibre en transportant l'électricité à travers l'Europe et en allant la chercher là où elle est particulièrement bon marché. Et tout le monde en profite.
Mais pour que tout le monde en profite, justement, il faudrait étendre le réseau de lignes à haute tension. Et c'est là que les choses se corsent. On peut le voir rien qu'en regardant la carte de l'Allemagne. Le nord du pays produit beaucoup d'électricité grâce à l'éolien, mais c'est le sud où se trouvent les grands centres industriels qui en a le plus besoin. Or, en Allemagne, la construction de réseaux électriques nord-sud n'avance que lentement.
C'est un gros problème. Nous avons un retard d'environ 7 ans sur l'extension du réseau et nous aurions déjà dû avoir 6000 km de plus depuis longtemps.
Ce n'est pas seulement un problème d'argent. De nombreux riverains s'opposent à la construction de pylônes électriques. Ils craignent par exemple des problèmes de santé ou bien que leur terrain perde de la valeur. L'enfouissement des câbles n'est pas non plus une solution. Il coûte cher et nuit à l'agriculture, explique encore Harald Bratke.
Ces câbles souterrains sont bien plus chers que les câbles aériens. Et ils ne sont pas très bons pour les agriculteurs. Les courants haute tension ont des pertes et assèchent les sols. Là où se trouvent les câbles, à 1,5 m de profondeur et sur une longueur de 20 à 25 mètres, un agriculteur ne peut pratiquement rien planter et doit être dédommagé en conséquence.
L'exemple allemand montre l'ampleur du défi que représente une interconnexion entre plusieurs pays de l'UE. Pour autant, la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, estime qu'il y a des solutions.
Les interconnexions transfrontalières exigent une plus grande part d'argent public, car sinon, les litiges concernant le bénéficiaire, celui qui produit des renouvelables ou celui qui les consomme, risquent de durer trop longtemps. Donc, pour l'infrastructure transfrontalière, l'argent public est un moyen de résoudre les conflits.
Les règles pour la construction des réseaux transeuropéens ont été adaptées afin de faciliter l'accès aux financements européens dans l'objectif d'accélérer le développement des renouvelables. La commissaire estonienne s'engage également à renforcer le fonds Connecting Europe mis en place par l'UE.
Pour cette décennie, nous avons besoin de 800 milliards d'euros. Mais gardez à l'esprit que rien qu'en 2022, les consommateurs européens ont payé 600 milliards d'euros pour acheter des combustibles fossiles à des pays tiers. Donc cela peut sembler un besoin massif d'investissement, mais dans le même temps, les combustibles fossiles ne sont pas gratuits non plus.
Une partie des coûts pourrait tout à fait être supportée par des investisseurs privés, estime pour sa part l'expert en énergie Harald Bradke. Il donne pour exemple la construction d'une ligne électrique entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui doit être financée exclusivement par des fonds privés.
Les grandes compagnies d'assurance et les fonds de pension cherchent des placements financiers sûrs. Le rendement ne doit pas être trop élevé. 4 à 6% suffisent, mais il doit être sûr et sur le long terme.
Harald Bradke fait toutefois remarquer que l'argent ne fait pas tout dans l'extension du réseau électrique. Selon lui, il est important d'évaluer les besoins réels pour éviter de se retrouver avec des ruines de lignes à haute tension dont plus personne n'aurait besoin. Le cadre financier actuel qui détermine le budget de l'UE est encore valable jusqu'en 2027. Le reste sera entre les mains du Parlement européen qui vient d'être élu et de la prochaine Commission européenne qui est en cours de négociation. Allemagne, deuxième partie, on reste en Europe et même en Allemagne. Après des décennies de répression, le pays a décidé d'effectuer un virage à 180 degrés dans sa politique contre les stupéfiants. Depuis le 1er avril, posséder et consommer du cannabis est désormais légal pour les personnes de plus de 18 ans. Alors si le cadre juridique est extrêmement strict, notamment sur les quantités et la consommation dans l'espace public, l'Allemagne est devenue le pays d'Europe le plus progressiste en matière de cannabis. Lundi 1er juillet, une nouvelle étape doit être franchie, des cannabis clubs pourront officiellement ouvrir leurs portes, des lieux de production et de vente de cannabis tout à fait légaux, mais face aux difficultés administratives et à la stigmatisation encore très forte, les cannabis clubs semblent encore être un rêve très lointain pour les consommateurs. Depuis Berlin, c'est le reportage de notre correspondant Julien Méchaussi.
La nuit du 31 mars au 1er avril dernier, devant la porte de Brandebourg, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour célébrer dans une ambiance enfumée la légalisation du cannabis.
Nous, les consommateurs, ne sommes plus des criminels. Nous allons pouvoir vivre comme tout le monde. Et la police et la justice vont enfin pouvoir se concentrer sur les vrais délinquants.
Et nous allons voir des clubs de cannabis, des coopératives de production. C'est vraiment génial, même si j'ai peur que ça prenne beaucoup de temps.
Une crainte qui est devenue au fil des semaines bien réelle, bien que les clubs de cannabis soient autorisés à démarrer officiellement leur activité dès le 1er juillet, les consommateurs vont devoir encore patienter. Mario Gede travaille d'arrache-pied depuis des mois pour mettre en place les structures de son White Lake Weed Club.
Nous avons, comme de nombreuses autres associations de producteurs, fait face à de nombreux problèmes au début, comme par exemple trouver des lieux pour cultiver les plantes. La stigmatisation reste forte. Les propriétaires sont très réticents, méfiants, et dès qu'ils entendent le mot cannabis, ils mettent le plus souvent fin à la discussion. Mais nous avons la chance incroyable d'avoir trouvé quelqu'un qui a accepté de coopérer avec nous.
Mario doit par ailleurs respecter des distances minimales de plusieurs centaines de mètres par rapport aux écoles, aux aires de jeu ou encore aux installations sportives. Un défi quasiment impossible à relever dans les grandes villes. Si Mario Gede fait partie des rares entrepreneurs du cannabis à avoir trouvé des locaux, il est pourtant encore bien loin de pouvoir cultiver légalement ses plantes. Car la nouvelle législation est très stricte. À partir du 1er juillet, les clubs de cannabis auront la possibilité de déposer officiellement une demande de licence. L'autorité compétente disposera ensuite de 3 mois avant d'attribuer ou de refuser la licence. Problème, le Land de Berlin n'a toujours pas annoncé l'identité de cette autorité et ne semble pas en faire sa priorité. Un chaos administratif qui suscite l'inquiétude et fait augmenter les coûts des entrepreneurs, comme partout dans le pays. La lenteur de la bureaucratie allemande met en danger le grand objectif de cette législation, assécher le marché noir. Comme l'explique Thorsten Dietrich, qui doute de la viabilité économique de son projet de club de cannabis, malgré des mois de travail, pour être prêt au 1er juillet.
Notre idée était claire, être en mesure de proposer des prix proches de ceux du marché noir, voire en dessous. Mais les personnes qui alimentent ce marché noir produisent du cannabis à grande échelle, alors que nous, qui voulons produire de manière légale, sommes presque empêchés de le faire. Tout cela fait que nous ne pourrons pas être en mesure de concurrencer le marché noir.
Bonjour, bienvenue. Donc je vais vous présenter les plantes que j'ai fait, que je commence à faire pousser depuis le début du mois.
Axel, ingénieur trentenaire, a lui profité d'un autre aspect de la légalisation. Pouvoir cultiver 3 plantes chez soi pour sa propre consommation, face aux lenteurs administratives qui freinent la vente légale de cannabis, de plus en plus de personnes se mettent à faire pousser eux-mêmes.
Donc, ici, on a sur la gauche, la plus avancée, c'est une Frozen Black Cherry, plantée le 2 juin. Donc ça, ça va être une plante un peu plus indica, comme on dit, donc un peu plus voilà, introspective, dans, qui fait réfléchir, qui amène voilà, à réfléchir sur soi-même ou sur différentes thématiques.
Amoureux des plantes en général, Axel est heureux d'être bientôt autosuffisant. Il pourra récolter d'ici le mois de septembre sans avoir à espérer que la bureaucratie se réveille.
Pas avoir besoin d'aller chercher autre part. C'est quelque chose qui est assez cool. Franchement, moi j'aime beaucoup les plantes par exemple, donc ne serait-ce que faire pousser quelque chose vraiment du début à la fin, avoir un produit à la fin, tout comme je pourrais faire pousser des fruits ou quoi, c'est quelque chose qui me fait plaisir aussi. C'est également assez sympa de fumer ce que tu as récolté. C'est de la même manière que tu mangerais tes propres fruits ou légumes.
L'euphorie de la légalisation du début du mois d'avril semble aujourd'hui bien loin. Se fournir dans le respect de la loi au sein de clubs de cannabis s'avère à court terme très illusoire. Et avec le boom de la culture à la maison, ce sont aujourd'hui les magasins spécialisés de jardinage qui sont les grands gagnants. Au regret d'entrepreneurs qui vont devoir se battre contre les méandres de l'administration. Julien Méchossi à Berlin pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Andreas Becker pour le sujet sur l'énergie verte. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine, également disponible en podcast sur toutes les plateformes. La semaine prochaine, pour cause de congé de mon comparse Hugo Flotatalon, on vous propose de réécouter un numéro de Vue d'Allemagne sur les traces de l'histoire coloniale encore présente dans ce pays. Et on se retrouve le 10 juillet pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !